petite enquête patrimoniale, présentée par Martine Balou.
Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre un prétexte d'un fait divers que j'ai retrouvé sur des journaux aux archives départementales, sur l'avenir du Périgord, donc qui correspond aujourd'hui à la Dordogne libre et le combat périgourdin, et de vous raconter ce qui s'est passé. C'est assez incroyable. Et comme j'ai vu des affiches du cirque Zavatta qui arrivait à Périgueux, je me suis dit, c'est l'occasion de raconter cette histoire assez improbable. C'est incroyable, j'ai envie de dire, mais c'est vrai. Alors, c'est un fait divers, comme je vais vous le relater, qui est décrit par la presse locale et nationale, figurez-vous, de manière cocasse, avec une vision d'ailleurs sensiblement différente. On dirait qu'on n'a pas vu la même chose au même moment. Donc ça prouve que quelquefois les journalistes, à sensation, ont envie d'imaginer des choses encore plus improbables pour dépasser leurs concurrents, on va dire. Comme je m'entends bien avec la presse, ça me fait sourire. Et donc j'ai envie de vous dire, voilà, que c'est l'époque où les cafés, où les clubs bouleversent les mœurs de la société nouvelle de Périgueux. Alors, ces établissements à Périgueux offrent des itinéraires qui conduisent à la culture et assurent une relative plénitude au rayonnement intellectuel propre à chacun. Voilà. Au café, on vient pour consommer, rencontrer des connaissances et surtout pour être vu. Alors ça, certainement, c'était la principale des choses, vu, être en vue et afficher sa condition sociale. Alors à l'époque, parmi les établissements de renom, le plus célèbre, celui de la Comédie, le Tout Périgueux et Paris. Alors savez-vous où est le café de la Comédie? Vous pouvez le chercher aujourd'hui, vous n'allez pas le retrouver, sauf si vous faites des recherches effectivement, parce que le grand café de la Comédie a en fait ouvert le 24 décembre 1840, sur l'ancienne place Mouchy. Alors là, la place Mouchy, c'est où? D'un nom d'un personnage, d'un propriétaire de lieu qui a cédé son espace pour donc créer un autre espace qui est tout simplement la place André-Mauroy. Voilà, il se situait à côté du théâtre qui a été construit sur les plans d'un architecte, un jeune garçon que j'affectionne vraiment particulièrement, à peine 21 ans, il est nommé à Périgueux par un préfet. Le préfet à l'époque, Rivet, veut absolument cet architecte catoire pour construire un théâtre. Donc il va donner une ampleur à Périgueux, il va construire son théâtre, il va mettre en... et construire un palais de justice et un théâtre, il va mettre en scène les deux lieux sur des places en forme elliptique, en forme d'ellipse. Et si vous vous amusez à faire une petite image, je vais dire, en croquis, vous verrez que le palais de justice et la place André-Mauroy sont inscrites dans une ellipse. Voilà. Donc, il va construire ce théâtre de 1836 à 1838. Et malheureusement, ce théâtre que vous ne pouvez pas lui voir aujourd'hui est détruit en 1956. C'est à cette époque, 2 ans après, que va naître ce que l'on appellera le Palais des Fêtes, qui est devenu aujourd'hui l'Odyssée. C'est encore une autre histoire. En fait, pour prolonger ce développement, pour situer un petit peu le paysage de la ville, pour prolonger le développement urbain, Catoire et le maire de l'époque, qui s'appelait Marcillac et qui soutenait à fond notre ami Jean-Baptiste Catoire, un enfant de l'assistance publique d'ailleurs, qui était extraordinaire, avec une force incroyable. Toute sa vie, finalement, il l'a consacrée à Périgueux. Il est enterré, je fais une petite parenthèse, au cimetière de l'Ouest, dans une petite tombe toute discrète qui a été réhabilitée par un maire, Michel Moirand, il y a quelques années, près du chemin de fer, car il a été aussi celui qui va pousser la ville vers l'ouest. Alors, si ce théâtre existe, eh bien, c'est grâce à lui. Donc, il fallait que je situe le paysage avant de parler de ce qui allait se passer. En fait, c'est toute une histoire parce que le théâtre en question aurait dû être à la place, en face du palais de justice actuel. Et comme c'est une question très sensible en ce moment, c'est amusant d'en parler puisque c'est sur cet espace montagne qu'on ne sait pas quoi faire, cette dent creuse qu'aurait dû être édifié ce théâtre. Et puis finalement, les élus consultés ont donné un avis défavorable en invoquant l'amputation de la promenade dite du Boulingrin. Boulingrin, voilà, je vous explique tout parce que c'est très moderne, ça peut expliquer aujourd'hui. Le Boulingrin, c'est en fait une promenade avec des plantations, on va dire, de petits bosquets hein, qui permettaient aux Périgourdins d'avoir un petit peu de verdure. Donc on dit que c'est une ambition démesurée pour la ville, avec des dépenses supérieures aux prévisions, et on parle d'ailleurs plus de théâtre à l'époque, parce que ça fait trop peur. On parle de salle de spectacle, avec un désir affirmé de polyvalence qu'on retrouvera plus tard. Voilà. Alors, on va faire construire, eh bien, il va y arriver, notre ami Catoire, pas à l'endroit il aurait voulu, en face du palais de justice, mais on va le faire, donc, sur cette place, aujourd'hui André Mauroy, avec des dimensions modestes, 30 mètres, 15 mètres, 30 mètres sur 15 mètres, en pierre provenant de la carrière des Sébrades à Saint-Georges, d'un pierre de Périgueux, voilà, d'une capacité de 511 places. Alors, ça fait un peu rédhibitoire par rapport à nos grandes salles de spectacle aujourd'hui, où les jeunes vont assister à des grandes manifestations, mais c'était ainsi. Il présentait une façade plate, on y accédait par quelques marches donnant sur un vestibule. Il faut que je pose le décor pour comprendre ce qui va se passer après. Et puis, donc, il y avait une salle qui était éclairée par un grand lustre de cristal, 30 becs en cuivre et 20 rampes de réflecteurs. Voilà, donc c'était pas les grands spots d'aujourd'hui, c'était ces petites lumières de l'époque. On ne pouvait pas faire autrement, on ne connaissait rien d'autre. Eh bien, le 19 novembre 1845, Monsieur Roux, directeur de l'usine à gaz, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui se trouvait à l'ouest et qui se trouve donc près de la gare, l'usine à gaz, qui aujourd'hui on dirait l'usine de gaz, mais voilà, propose de changer l'éclairage à l'huile incommodante et qui terne l'éclairage au gaz plus lumineux. Voilà. Donc, le théâtre commence à s'enorgueillir et fait des envieux. La toile de scène représentait, ça c'est très important, les monuments de Périgueux, antiques et modernes, des œuvres d'un peintre qu'on a oublié qui s'appelait Salès, et il y avait des toiles, des portraits, des médaillons, des scènes de Molière qui est venu à Périgueux. J'aurai l'occasion de vous en reparler une autre fois, qui semble être venu à Périgueux. Des ballets du jeune peintre périgourdin Jacques-Émile Lafont, qui est quand même un ami d'Eugène Delacroix, qui viendra à Périgueux. Encore une illustre, encore une autre histoire. Voilà. Alors en fait, il est restauré, ce théâtre, en 1858, et puis en 1913, il va recevoir aussi d'autres aménagements qui vont être liés à sa sécurité. Voilà, il va devenir très vite trop vétuste. Le mardi soir 7 novembre 1905, la troupe de Monsieur Fontane du Châtelet donne au théâtre de Périgueux une représentation, et ça c'est très important, ça va asseoir l'histoire de la ville de Périgueux dans la presse, donne une représentation du Tour du Monde en 80 jours, en 5 actes et 5 tableaux. Alors, mes auditeurs, je ne sais pas si tout le monde connaît Jules Verne, etc., etc. Jules Verne est né à Nantes. C'est un personnage extraordinaire. Alors, je me suis arrêtée sur le Tour du Monde, puisque c'est une pièce qui est jouée à Périgueux et qui va vous faire sursauter tout à l'heure avec un éléphant fou qui défraye la chronique, qui fait peur à tout le monde, de manière assez différente, d'ailleurs, selon les représentants de la presse. Le tour du monde en 80 jours est un roman d'aventure avant tout, de Jules Verne. On le connaît, on l'apprend, plus dans les collèges, mais les petits-enfants, et je le dis parce que j'ai des petits-enfants, se passionnent aussi pour cette histoire. On pourrait que s'y passionner, un tour du monde à 80 jours. Il est publié en 1872. Et qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors cette histoire, c'est Phileas Fogg, un gentleman anglais, qui parle avec les membres de son club et qui leur annonce qu'il fera le tour de la Terre en 80 jours. Et aussitôt, le voilà, parti accompagné de son domestique Jean, d'un Parisien dit Passepartout. Ce n'est pas le Passepartout que l'on connaît, donc des célèbres réalisations donc des jeux que tout le monde suit. Non, c'est un Passepartout qui a été pris d'ailleurs dans cette histoire de Jules Verne. Et il devra être revenu à Londres pour gagner donc le samedi 21 décembre 1872 à 20h45. Voilà. Soupçonné d'être l'audacieux voleur de la Banque d'Angleterre, Phileas Fogg va être filé tout au long de ses pérégrinations par le détective Fix, qui ne peut cependant pas l'arrêter, le mandant d'amener arrivant toujours trop tard. Les pays traversés, les multiples aventures, les stratagèmes employés pour contourner les nombreux obstacles, l'activité débordante de Phileas Fogg pour lutter contre le temps, en ne se départant jamais de son flegme tout britannique, les personnalités de Passepartout et l'obstiné Fix font du tour du monde en 80 jours un merveilleux roman qui donnera envie d'être joué dans des donc, représentations de cirque. Parce que l'ensemble du roman mêle récits de voyage traditionnels pour Jules Verne et données scientifiques comme celles utilisées pour le rebondissement de la chute du roman. Ce voyage extraordinaire est rendu possible aussi grâce à l'évolution des transports qui marquent ce 19e siècle d'une manière prépondérante dans le contexte de la révolution industrielle dans laquelle Périgueux s'inscrit. C'est la parfaite illustration et ces récits ne pouvaient combler que les Périgourdins. Donc, c'est la raison pour laquelle on acquiesce et on accueille cette représentation de ce monsieur Fontaine. Mais attention, le mardi soir, 7 novembre 1905, la troupe de monsieur Fontaine du Châtelet donne donc une représentation de ce tour du monde, je le répète, en 5 actes et 15 tableaux. Alors, messieurs Dennery et Jules Verne, dans lequel l'éléphant qui doit remporter une veuve hindoue arrachée au bûcher joue un rôle essentiel. Et le pachyderme, qui devait figurer sur la scène, eh bien, à Périgueux, avait été conduit à ce théâtre, sur la place André-Mauroy, aujourd'hui appelée anciennement place Mouchy, vers 4 heures de l'après-midi, en attendant la représentation. Mais l'animal va quitter brusquement la scène. Il va gravir le petit escalier qui conduit au stall, il suit l'étroit corridor qui longe le parterre et arrive en poussant des cris terribles à la loge de la concierge. Oh mon Dieu! Celle-ci fait précipitamment rentrer ses enfants et ferme sans effort la porte directeur. Les grilles sont écartées et majestueusement, eh bien, l'énorme figurant du tour du monde en 80 jours descend les marches du théâtre. Je vous ai parlé des marches tout à l'heure du théâtre, je vous ai présenté ce théâtre. Une fois sorti, les lumières d'un café à proximité, le café de la comédie, alors on en parle, le café de la comédie construit avant ce théâtre. Et le théâtre qui fait de l'ombre au café de la comédie, le café de la comédie qui ne supporte pas qu'il y ait des représentations qui leur font de la concurrence, parce qu'ils ont imaginé et réalisé des tas de représentations, des bals masqués, etc. Donc, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Une fois qu'il descend les marches, il va rentrer en client dans le café de la Comédie qui lui semble très attrayant, qui est juste à côté. Le café de la Comédie, il est aujourd'hui représenté. C'est une banque, l'ancienne banque du Crédit Lyonnais, qui se trouve à gauche quand vous êtes face à la place André Mauroy et près de la place du Général de Gaulle, puisqu'il y a deux noms aujourd'hui. Eh bien, comme un client entre à ce moment-là, ben, il le suit, après tout. Il n'est pas bête, cet éléphant. Le client avait fermé la porte. Mais qu'est-ce qu'une porte fermée pour un éléphant, franchement ? Gypsy, c'est son nom, avec des barrissements de satisfaction, je ne vous ferai pas quand même, pénètre bravement, défonçant les boiseries et brisant les vitres. Puis, comme une glace se trouve juste en face de lui, derrière le comptoir, il s'y dirige, tandis que la caissière s'évanouit. L'éléphant se mire dans la glace, rapporte le combat périgourdin. L'avenir du Périgord n'en parle pas autant, mais les consommateurs effrayés par cette étrange apparition abandonnent apéritif et toute consommation. Mais s'enfuient à la hâte. Leur précipitation est telle que plusieurs sont contusionnés, dit-on. L'un d'eux est blessé à la jambe et un autre, en se lançant au dehors, est projeté sur la chaussée où il s'étend de tout son long dans la boue. Ça, c'est la réflexion de l'avenir du Périgord. Mais le cornac à court, le cornac qui s'occupe de lui, pour traduire, il fait manger quelques morceaux de sucre à son élève qui, calmé, finalement, est ramené au théâtre. Et le soir, à la représentation, eh bien, Gypsy ne peut figurer en montant sur la scène, dit-on. Il faillit passer à travers le plancher qui s'effondre sous son énorme poids. Aurait-il mangé trop de sucre ? Non. Ce serait vraiment être complètement inadapté à cette pensée-là. Ce n'est pas des petits morceaux de sucre qui vont le faire passer à travers le plancher, dit-on. Et puis, l'autre journal, le combat revient et dit: Périgourdin, c'est devant une salle comble que la tournée théâtrale a donné hier soir, donc ce soir-là, une brillante représentation du Tour. Du Tour, donc, on connaît du monde en 80 jours. Pièce à grand spectacle, en caisse tableau, on recommence. L'interprétation de cette œuvre instructive et amusante à la fois. Alors on raconte que, eh bien, les différents tableaux se sont déroulés au milieu des décors absolument nouveaux et très remarquables, agencés tout spécialement pour cette tournée, et qu'on la cite l'arrivée donc de tout un périple de personnages, donc du Mongolia à la Suez, d'un bungalow, d'une grotte de serpents, d'un bar à la San Francisco, d'un navire qui éclate, un monsieur Berly, qui est Monsieur Passepartout, qui était étonnant de brio, de gaieté, de communication et d'agilité dans son rôle qu'il a joué 100 fois au Châtelet. Et surtout que ce soir-là, eh bien, l'éléphant est d'une élégance démesurée. Je vous laisse apprécier à volonté tout ce qui a pu se passer dans l'imagination des Périgourdins et de la presse de Périgueux.
C'était Martine Balou,
directrice du patrimoine, service ville d'art et d'histoire, ville de Périgueux.